Nous voilà de retour aux amateurs de sport. Je fais juste vous laisser vous tremper dans l'atmosphère d'un studio.
Continuez, boys. Il y a une chambre de hockey,
non, c'est une chambre de hockey.
Mais non. Manquer de discipline.
Pas manquer de discipline, c'est comme ça que ça se passe. C'est...
Non, mais c'est drôle parce qu'on parlait, on va le dire aux gens, on parlait justement là, de joueurs autonomes. Puis Marc, lors de la conférence de presse aujourd'hui, il l'a très bien mentionné. Oui, on était agressif. On fait des offres.
Ils n'ont pas voulu venir.
Mais ils veulent pas venir. Puis on parlait avec Marc-Antoine tantôt. Mettons, on prend un nom, Guy Savard. Il devient joueur autonome, puis c'est un très bon joueur. Puis là, tu as deux offres. Tu as une de 8 millions par Montréal, puis une de 8 millions par les Panthers. Un exemple, Panarin. Tiens, on va parler de Panarin.
Ben oui, Panarin, c'est très bon.
Là, tu as Kenville qui est là, puis lui, il a joué avec...
Radulov, Batins, Dallas, Montréal.
Fait que là, il compare les deux. T'as le choix, là, avec l'équipe du Canadien, là, ou avec l'avenir que les Panthers ont. Ils ont quand même des bons jeunes. C'est la raison pour laquelle Kenville est allé diriger les Panthers. T'as 8 millions là, puis 8 millions là-bas. Tu payes 30% d'impôts en Floride. Tu vas jouer au soleil. Tu te games de golf de temps en temps. Tu vas avoir un bon club. Au lieu de payer 50% et plus d'impôts à Montréal. Puis c'est pour ça que les gars, la plupart maintenant, ne viennent pas à Montréal. On le dit souvent, mais je vais le répéter encore ce soir. C'est l'une des raisons pour laquelle...
C'est fiscal et météo.
Ben, la météo, peu moins météo, là.
Pourtant, une journée comme aujourd'hui devrait convaincre les joueurs autonomes de venir à Montréal.
Ouais, il aurait dû venir sur la rive nord hier avec la pluie vers de la salle.
Mais des joueurs autonomes là, de qualité, il n'y en a pas beaucoup qui ont bougé, là. Stamkos a re-signé avec son
vrai, ben, point de va signer. C'est vrai, bon point, ça.
Matthews vient de re-signer pas un contrat à le très très long terme, 5 ans. Nylander a re-signé, il a fait sa petite grève, mais il est encore à Toronto. Peut-être qu'il va bouger, mais ça va être via transaction. Marner va re-signer avec son club. Puis la majorité des jeux en libre avec restriction vont re-signer avec leur club. Ils bougeront pas eux non plus. Fait qu'aujourd'hui, moi non plus, je crois pas beaucoup à l'autonomie. Tu sais, je reviens toujours sur le même point. Moi, je suis pas obligé.
Tu sais, ta banque. Donc, tu seras pas déçu si Marc Bergevin réussit pas à convaincre des joueurs autonomes de venir jouer à Montréal.
Ben, Panarin, lui, s'il est avec.
Il n'y a pas juste Panarin, là, tu sais, c'est sûr.
Ben, mais je te parle d'un joueur de qualité qui va changer la dynamique de ton club. Là, on parle pas d'Alex Adler en défensive ou de Ben Chariot ou à Winnipeg. C'est des gars qui pourraient venir aider l'équipe à court, moyen terme. Mais ça t'amène pas. Ça amène pas ton équipe à un autre niveau. Là. Tu sais, t'as Brock Nelson, Anders Lee, Ferland qui est en Caroline, tout ça. Là. C'est
Kevin
des bons
Hayes.
Joueurs de hockey. Kevin Hayes, mais je veux dire, est-ce que tu es capable de compétitionner pour te rendre dans une finale de Coupe Stanley que les gars que je te nomme, pas convaincus, à moins que tu n'amènes 3-4, là, puis ça sera pas le cas. Fait que c'est ça le gros problème de l'autonomie présentement, puis moi, je suis d'accord avec ça. Mon point, puis j'y tiens, c'est que il n'est pas obligé d'échanger ses jeunes cette année. Il faut que tu continues à bâtir ta banque. Mais à un certain moment, il faut que tu identifies certains jeunes que tu as dans ta banque avec peut-être un ou deux choix pour dire « Là, j'y vais. Je donne le coup pour aller chercher un joueur qui est disponible, que je veux amener à Montréal,
comme
que
Columbus,
je pense qu'il va faire la travail. »
Comme Columbus a fait, Ben, en quelque sorte.
Avec Saad puis Panarin. Là, il s'en va, puis garde, c'est comme ça.
Regarde, cette année, au repêchage, Columbus, pas de choix de première ronde, pas de choix de deuxième ronde, pas de choix de troisième ronde, pas de choix de quatrième ronde. Ils ont deux choix, cinquième, sixième. Fait que les scores vont manger des chips pendant deux jours. Des Lays. Lays au vinaigre ou au ketchup.
C'est pas un hasard si Marc Bergevin revient à quelques reprises, autant dans l'entrevue avec nous que dans son point de presse, où il évoque la possibilité de revenir sensiblement avec le même club. T'sais, il dit pas ça pour rien. C'est une possibilité ou c'est pour baisser les attentes?
Ben, je pense que c'est pour préparer les gens au fait que si jamais ils s'essayent auprès de joueurs autonomes et que les joueurs autonomes veulent pas venir, l'autre façon de s'améliorer, ça va être par voie de transaction, mais il est dans une situation où il va déshabiller Paul pour habiller Jacques.
C'est ça.
Alors,
parce qu'il n'y a pas assez d'actifs à échanger.
Exactement. Fait que là, il a beau dire, ben là, nous, nos joueurs de soutien qu'on aime bien, Lekkonen, Byron ou Shaw, on va en échanger un de ceux-là. Tu vas peut-être aller chercher un joueur en défensive qui va t'aider ou un autre type d'attaquant. Est-ce que ça va véritablement faire de ton équipe subitement une équipe compétitive au point de dire, ah ben là, ils ont une place en série assurée pour les 5 prochaines années? Bien sûr que non.
Je veux pas revenir bien longtemps là-dessus, mais juste pour valider une dernière fois, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, Jonathan Drouin, le lien avec Max Pacioretty. Marc Bergevin a jamais dit publiquement qu'il allait changer Max Pacioretty. Publiquement, on se préparait à le réaccueillir au camp d'entraînement. Puis, il parlait positivement dans l'optique où même si on savait tous qu'il voulait l'échanger puis qu'il avait essayé de l'échanger. Publiquement, il a jamais trahi ce discours-là, même si ça l'amenait à pas dire la vérité à tout le monde de ce qui se passait en coulisses. Alors, ma question, c'est malgré tout ce qu'il a dit sur Jonathan Drouin aujourd'hui, le croyez-vous que c'est à Montréal que ça va se poursuivre pour lui, ou il y a une possibilité que ce qu'on a entendu aujourd'hui puis la réalité qu'on va vivre cet été, ça soit deux affaires bien différentes?
Ben écoute, moi personnellement, il faut faire attention là. Je pense que Marc était sincère là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, ça c'est mon opinion à moi qui est très personnelle, tu sais, je l'aime bien Jonathan Drouin, là, mais moi personnellement, je trouve que c'est pas un bon fit, là, que je regarde tous les autres joueurs qui se donnent corps et âme, puis je sais qu'on attend du talent. Aussi Galchenyuk en avait du talent, puis on pensait pas que Marc aurait été capable de conclure une pareille transaction pour amener Max Domi ici à Montréal. Ça a été une transaction, avouons-le, là, en faveur du Canadien de Montréal, puis de loin à bord de ça. Alors moi, j'ai l'impression que si Marc peut avoir une bonne transaction encore en main pour chercher un défenseur ou pour amener peut-être un autre attaquant, il est pas impossible. Il est pas impossible que Jonathan, il signe encore pour 4 ans, 5 millions par année. Une équipe, il y a beaucoup d'équipes qui cherchent d'avoir de l'offensive aussi. Alors, regarde, peut-être, on sait pas. Je dis pas oui, je dis pas non, là. C'est juste une discussion qu'on a. Ouais.
Ben, je le trouve sincère. Moi, il m'a paru sincère aussi. Aucun doute là-dessus, sauf qu'évidemment, il y a toujours la carte de dire, ah, ben là, c'était ce que je croyais, c'était mon plan, jusqu'à ce que telle équipe m'arrive avec une offre voilà. Que je ne pouvais pas refuser.
C'est ça, Marc-Antoine. t'as tout compris.
Anthony Manta, Joe, est-ce une offre qu'il pourrait refuser? Tu penses que ça attirerait son attention? Apparemment que Blashill n'est pas un fan d'Anthony Manta.
Ben, je pense pas que ça améliorerait le Canadien. Le niveau d'habilité de Drouin m'apparaît supérieur. Fait que tu continues avec celui dont tu connais les bébites bien comme il faut.
C'est ça.
Mais en défensive, cela dit, je pense que Drouin, si le Canadien dit, ben nous, on veut donner une bonne chance à Suzuki la saison prochaine, ou il y a tel autre joueur qu'on pense qui pourrait nous aider. Faut pas oublier que Drouin a terminé le dernier quart de la saison à l'extérieur du top 6. Si le Canadien commence de la même manière avec une composition semblable des deux premiers trios, ben, tu pourrais dire, ben, on va prendre Drouin, il faut aller chercher un défenseur qui va nous permettre de mettre Kulak sur le troisième duo, un gars comme, je sais pas, un gars comme Nick Leddy, par exemple, il y en a plusieurs, là.
Que va amener, c'est intéressant de voir enfin deux jeunes aussi prometteurs et talentueux, que va amener à partir de l'an prochain, vraisemblablement, des débuts de l'année, de la cohabitation Ryan Poehling et Jesperi Kotkaniemi et de la façon dont Claude Julien pourra aussi les protéger face aux bons adversaires. Comment ça va se dessiner, ça, cette cohabitation-là?
Ça va se dessiner au camp d'entraînement, Mario.
Oui, c'est ça.
Moi, je vais attendre le camp d'entraînement dans le cas de Poehling. J'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui. Je pense que c'est un gars qui a le potentiel d'évoluer dans la Ligue nationale. On a vu Kotkaniemi qui a été bon au camp des jeunes, au camp des recrues, aux petits tournois là, qu'ils font au début de la saison. Camp d'entraînement, il y a une belle progression. Je pensais même pas encore, après le camp d'entraînement, qu'il était pour rester aussi longtemps qu'il l'a fait cette année. Puis je suis content qu'ils l'ont fait, mais moi, je vais me garder une petite gêne parce que la gang de la deuxième saison, des fois, ça peut arriver, puis ça peut arriver à Kotkaniemi. Dans le cas de Poehling, moi, mon évaluation, parce que je veux le voir vraiment
dans des vrais matchs
de la Ligue nationale, on verra. À partir du moment où là, il fait le travail, puis tu penses que tu peux le garder, puis évidemment Peut aider ton club.
C'est là que ça va se passer.
C'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait, ça devrait se passer.
Mais moi, je suis un peu plus confiant que toi dans le cas de Poehling. Je pense que, tu sais, faut pas oublier non plus que dans la NCAA, il y a des bonnes équipes. Là, c'est fort. Le hockey, quand même, très, très fort.
Puis, les gars sont plus vieux que dans le junior.
Il y a 20 ans aussi, quand même, tu sais. Mais quand même, quelle belle impression, messieurs, il nous a laissé quand même lors du dernier match.
As-tu trippé samedi soir, mon mec?
J'en parle, j'ai des frissons. Ses parents étaient là, puis écoute, c'était un scénario extraordinaire. En plus, il va marquer un titre de barrage. Tabarouette, qu'est-ce que vous voulez le plus
que ça? Il ressemblait-tu à un joueur de hockey, comme on dit?
Oui, il ressemblait à un joueur de hockey. Mais celui que j'ai pas parlé ce soir, là, savez-vous c'est quoi? C'est Thomas Tatar. Non, ça, c'est un joueur de hockey.
Tu l'aimes, Tatar? Hein?
Ah, quand on parle de joueur de hockey, là, lui, depuis... Tu sais, il était à Détroit. Je comprends pas comment ça fait que ça n'a pas marché à Vegas. C'est un bon joueur. Les coéquipiers l'aiment. Le monde l'aime. C'est un bon passeur. Il travaille.
Est-ce que tu sois épranant un peu?
Je sais pas. Je sais pas.
On l'a vu jouer à Détroit.
Mais
il n'était pas aussi constant que ça à Détroit. Je pense vraiment qu'il a élevé son jeu d'un cran.
Il a vu ça comme un défi, je pense.
C'est un beau défi. Puis moi, ce que j'apprécie beaucoup de lui, c'est que c'est pas juste d'être créatif quand il est en possession de la rondelle. Moi, défensivement, il est correct. Zone centrale, c'est un bon patineur, toujours bien positionné. Mais moi, c'est qu'est-ce qu'il fait pour aller récupérer des rondelles dans le territoire offensif qui m'impressionne vraiment. T'sais, il va aller gagner des bagarres un contre un, il va soutirer la rondelle, il va bien se positionner pour créer des revirements. Là, des revirements qui deviennent de bonnes chances de marquer dans le territoire offensif. Mm-hmm. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Puis lui, là, il s'investit dans un match.
Oui, exact. C'est
ça. Un très bon bâton également.
Ouais, très actif avec son bâton. Comment vois-tu l'utilisation de Kotkaniemi et Poehling la saison prochaine? Même si on a bien du temps pour en reparler, mais juste pour avoir un petit aperçu de la manière que tu
Benoît
vois ça.
Benoît parlait de la gang de la deuxième saison. Moi, je veux dire que Kotkaniemi a probablement vécu la gang de la deuxième moitié de saison. Je l'ai beaucoup côtoyé cette année, Kotkaniemi. Puis derrière son sourire puis son côté enfant, c'est un sérieux compétiteur. Mm-hmm. Puis je pense qu'il a pris beaucoup de notes sur ce que ça devait lui prendre à compter de l'année prochaine pour pouvoir être au niveau qu'il souhaite être et avoir un rendement qui va durer 82 matchs. Alors, je m'attends à ce qu'il prenne un gros pas en avant l'année prochaine. Il m'apparaît pas être le gars le plus grand candidat à la gang de la deuxième année. Dans le cas de Poehling, j'ai des attentes limitées parce que il m'apparaît comme un gars qui pourrait jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Mais même s'il joue dans la Ligue nationale, on va lui donner un rôle très limité. Tout au plus, il m'apparaît être, pour l'année prochaine, mm-hmm. un centre de quatrième trio. Alors, si tu le mets avec des joueurs qui pourraient avoir des habiletés défensives, que ce soit Armia ou Lekkonen ou Byron, tu sais, c'est trois gars qui jouent bien sur 200 pieds. Si tu, de l'autre côté, t'as un droitier comme Will qui est capable de gagner des mises en jeu de son côté, si t'as des joueurs qui sont complémentaires à son style, ça pourrait limiter ses responsabilités puis faire en sorte que tu pourrais tirer le maximum de lui.
On va s'arrêter pour une dernière pause. C'est loin d'être la fin de l'émission. Martin McGuire sera là après les nouvelles de 20h. On revient dans quelques instants. On n'a pas abordé l'aspect physique. On parle beaucoup de vitesse. J'ai entendu parler du mot fatigue souvent cette année dans l'environnement du Canadien. Est-ce qu'il y a une situation à corriger de ce côté-là? Ça n'a pas été un sujet abordé ni dans mon entrevue ni dans le point de presse. On revient tout de suite. J'aime pas ça le demander comme ça, là, mais est-ce que le Canadien est trop petit?
Ben, évidemment, moi, j'aimerais ça avoir arrivé tantôt. Je parlais de Kevin Hayes, là, qui va être joueur autonome. C'est le genre de joueur que j'aimerais que le Canadien aligne. On a vu cette année, quand même, à plusieurs reprises, lorsqu'ils affrontaient des grosses équipes physiques. On a vu en deuxième période et en troisième à Columbus. Quand Columbus a décidé de peser sur l'accélérateur, là,
On a rétréci,
puis on a mis les pieds sur les brakes, sur les freins, là. Fait que c'était un peu plus tough. Fait que, oui, j'aimerais ça voir Marc grossir l'équipe, oui.
Les gars?
Ouais, moi aussi. Mais quand tu dis ils freinent, c'est pas du tout qu'ils sont peureux.
Non,
c'est juste qu'à
minute,
un moment donné, ils perdent beaucoup de batailles le long des bancs.
La loi de la gravité, il y en a qui...
C'est ça.
Parce que leur gros point fort, c'est la rapidité. Fait que si t'es ralenti en zone neutre, c'est ça.
Fait que tu sais, un gars comme Yoel Armia, par exemple, qui s'est distingué en deuxième moitié de saison parce que c'est un gars de plus gros gabarit qui gagne ses batailles le long des bancs. Il s'est montré utile. Puis tu sais, après le 1er janvier, c'est lui qui a marqué le plus de buts à l'étranger de toute l'équipe.
Imagine.
Il y a un lien derrière ça. Fait qu'effectivement, tu parles de Kevin Hayes. Benoît a mentionné Brock Nelson plus tôt. Ça me surprendrait pas que Marc Bergevin ait regardé spécifiquement la défaite contre Columbus, puis que ce soir-là, il soit dit « Hey, là, ça suffit, là. Je vais me grossir cet été. » Un petit peu comme la série de première ronde contre les Sénateurs en 2013. Il avait dit « Notre prochain repêchage, on va en repêcher des gros. »
Ça fait longtemps qu'il y a ça dans la tête, mais on est plus petit qu'il y a 3-4 ans, je pense, honnêtement, parce que tu y vas avec ce que tu peux avoir. Tu sais, comme en échange de Galchenyuk, qui s'est pas dit « Bon, ben, je vais essayer d'aller recruter un gars de 5 et 8. » Mais c'est Max Domi qui peut avoir. Puis il joue très bien, Max Domi, mais c'est pas un gars de 6 et 3.
Ben, en même temps, l'équipe joue en fonction de ses forces. Il va avec la rapidité, les habiletés. Puis c'est la raison pour laquelle on a souvent entendu parler de fatigue cette année, c'est que Claude Julien a changé complètement son style de jeu. Mm-hmm. C'est un style de jeu qui est beaucoup plus demandant pour les attaquants. Alors, c'est du cardio, puis c'est du patine dans les deux sens. Et à un moment donné, ça fait en sorte que tes joueurs de plus petit gabarit, tu peux pas les employer pendant 20 ou 21 minutes. Cet après-midi, Gallagher nous a dit moi je sais que après un certain nombre de minutes d'utilisation, mon efficacité diminue. Fait qu'il sait qu'il est dans une zone où à 16-17 minutes, il est correct. Mais s'il en jouait 19-20, peut-être qu'il n'en marquerait pas 33 buts.
Fais-tu un lien de fatigue et petits joueurs tout ça, Ben? Oui.
Toujours mieux un gros qui patine qu'un petit qui patine. Au même talent, là, talent égal.
Donc, le Canadien ne pourra jamais aspirer vraiment aux grands honneurs tant que la majeure ou la moitié de l'effectif.
Mais il faut faire attention.
C'est en marche, Mario.
Faut se grossir.
C'est ça qu'on entend depuis aujourd'hui. Non, mais si vous avez parlé du match de Columbus, Mario, le match à Washington, match 81, là, quand tu joues
en novembre, on parlait
pendant 2-3
semaines. Julien,
là, moi, je me souviens des 15 dernières minutes. Mm-hmm. T'es plus capable d'aller contourner des joueurs de Capitals de Washington. Ils étaient pas capables d'arriver premier sur la rondelle parce que les joueurs devant eux étaient plus gros. tu sais, leur barraient la route, ils gagnaient leur bagarre un contre un, ils plaçaient leur rondelle sur le long des rampes. Mais c'est ça le gros problème du Canadien. Compétitionner avec les meilleures formations. Pourquoi que le Canadien est toujours capable de bien jouer contre Tampa en saison régulière? Parce que Tampa, ils frappent pas, puis ils patinent, puis ils veulent jouer du hockey ouvert. J'ai hâte de voir le style du Lightning de John Cooper en séries éliminatoires. Parce que s'ils jouent de cette façon-là, comme Columbus, ils peuvent avoir une petite surprise. Ce sera peut-être pas aussi facile qu'ils le pensaient. Mais c'est ça que Washington a appris à gagner. Columbus joue ce style-là. Fait que tes petits joueurs.
T'as juste à regarder l'impact de Tom Wilson dans une série. Fait juste regarder l'impact de Tom Wilson ou Ryan Reeves à Vegas. Puis je nomme juste ces deux-là. L'élément physique, ça fait encore dans une série 4-7, là, peut faire la différence. En terminant, les gars, avez-vous l'impression, j'ai commencé hier la table ronde en demandant ça aux gars, avez-vous l'impression que le Canadien va faire mieux l'an prochain? Il nous reste à peu près 15 secondes, chaque.
Moi, je pense que oui, parce que je crois que Marc Gervais va faire le travail cet été pour améliorer son club. Ma réponse est oui.
Moi aussi, je pense que l'équipe va s'améliorer, mais ce qui m'inquiète, c'est les autres équipes autour qui pourraient s'améliorer, nommément les Panthers de la Floride.
Laisse faire les autres, Marc-Antoine.
Que dans un classement, il faut que tu considères ceux qui sont en avant et ceux qui sont en arrière. C'est, tu peux pas faire autrement.
Puis moi, je me prononce pas. Je vais attendre de voir le travail qui va être effectué cet été.
Il me reste 15 secondes. Nommez-moi un joueur que vous seriez prêt à sacrifier, qui aurait une importance pour une autre équipe, puis pour qui tu pourrais avoir de quoi? Un nom que tu échangerais.
N'importe qui.
Ouais.
N'importe qui. Si on veut le trade qu'on veut avoir, let's go.
T'as pas d'intouchable, Mayer?
Carey Price.
Ah ouais?
C'est le seul.
C'est le seul? Ouais, OK. Bon, OK. Les gars, la musique est partie.
Ça va un autre nom,
il reste 5 secondes. Vous direz, ça va être fini.
La prudence est de mise.
C'est une grosse colle. Ouais.
La prudence est de mise. Merci Marc-Antoine Godin, Mario Tremblay, Benoît Brunet. Bonne soirée, messieurs. Merci d'avoir participé. Martin McGuire au retour avec son bilan à lui.